Alors bonjour à tous, rebonjour. Nous allons parler ensemble. J'ai la chance et j'ai le grand honneur d'avoir quatre personnes absolument merveilleuses à cette table qui, comme le faisait remarquer Monsieur Bertrand Roubi, n'est pas ronde, mais j'espère qu'il y aura une belle circulation, en tout cas de paroles. Je vais commencer par vous présenter mes invités. Tout le monde m'entend bien? C'est parfait. Alors, je vais commencer par Julie. Julie Demers, auteure. Je suis très fière de t'avoir ici, Julie. Elle est écrivaine et critique de cinéma québécois. Son premier roman, Barbe, a été nominé au prix du Calque de la Relève à Montréal, au Festival du premier roman de Chambéry en France, au Grand Prix littéraire Archambault et à la Biennale littéraire des Cèdres. Il est aussi nominé en ce qui me concerne dans mes grands romans, mes grands coups de cœur. Voilà, je voulais te le dire. Il est traduit en anglais chez Coach House sous le titre Little Beast. En parlant de bêtes, cette fois je me retourne vers Karine Payette. Karine, vous la connaissez tous puisqu'on lui doit cette affiche absolument surprenante, étonnante et qui a fait parler d'elle, mais alors tu as fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre et de parole. Karine est une artiste montréalaise qui réfléchit au rapport complexe que l'humain entretient avec les autres espèces. Illustration. Dans une pratique multidisciplinaire, elle rend visible l'impact de l'environnement sur le vivant en s'appuyant sur les notions de confort et de contrariété. Elle définit un espace en perpétuelle transformation. Ses œuvres font partie de collections particulières et publiques, dont celle de la ville de Montréal, du musée des Beaux-Arts de Montréal, et vous pouvez voir son travail actuellement dans l'exposition Mnémosyne au musée des Beaux-Arts et au centre Circa Art Actuel avec une très surprenante installation. Je n'en dis pas plus. Ce qui me conduit en tout cas à présenter notre troisième invité, artiste multidisciplinaire qui va vous ravir dans tous les sens du terme. Vous verrez ça tout à l'heure. Karine Turcot est une artiste en art visuel polyvalente. Elle pratique le dessin, la performance, les arts d'impression, le livre d'art, la photographie et la broderie, et vous le verrez, il n'y a pas de dispersion de sens, bien au contraire, tout ça est très complémentaire, très articulé. Elle a appris les rudiments de la céramique à l'ENAP grâce à une bourse octroyée par le gouvernement mexicain. Elle a réalisé plusieurs performances, notamment la Biennale des formes au Chili, ainsi qu'au mois de la performance de Berlin. Son travail a été exposé, entre autres, à la galerie Armure et à la BIEC. Ses livrets ont été vendus, peut-être que tu nous en parleras, au New York Museum, ainsi qu'au Chelsea Museum de New York. Et je circonvolutionne pour arriver à notre dernière artiste, Dominique Paul. Dominique, vous le verrez, à une petite communauté pour commencer avec Karine, c'est Chelsea, New York, puisque tu es représentée par la galerie Miyako Yoshinaga. En 2017, elle y a présenté sa deuxième exposition individuelle, exposée en duo à Paris Photo. Ses œuvres, dont vous pourrez voir un bel échantillonnage tout à l'heure, ses œuvres font partie de nombreuses collections à Washington, au musée de la vie romantique de Paris, je le signale, qui est un musée superbe, et tu nous en parleras sans doute tout à l'heure. Tu as proposé une œuvre que je trouve très forte, que j'aime beaucoup. Elle a réalisé plusieurs projets de résidence remarqués à New York. En 2018, elle publiera, d'après sa thèse de doctorat chez l'Harmattan Paris, pardon, Entre chair et lumière, de la possibilité d'une distance critique par l'objet image. Et Dominique Paul, je ne veux pas déflorer des choses, mais a beaucoup à nous dire justement sur la lumière. En tout cas, moi, j'espère t'entendre beaucoup parler sur la lumière. Alors, pour commencer, pour envoyer un petit peu la salve, j'aimerais débuter sur la question du brouillage des frontières et de l'hybridation. C'était très sous-entendu au cours de ces 2 journées. Là, on va l'articuler d'un point de vue littéraire et artistique. C'est ce qui unit nos quatre créatrices. À partir de là, chacune des personnalités se dessine bien évidemment. Chacune propose sa singularité, sa propre vision de l'hybride. Mais, bien sûr, point commun, ce sont toujours des créations culturelles. Elles ne partent pas de rien, hein. Elles ont fait un grand parcours, c'est frappant, vraiment, dans les quatre démarches ici. Et on va commencer, si vous voulez bien, par Julie, donc par notre auteur. Julie, ton personnage est une femme.
Oui, c'est une petite fille. Est-ce que je continue ou vous
Ah,
continuez?
mais vas-y, ça commence bien. C'est très bien. C'est une femme.
Donc, mon personnage, c'est une petite fille de 11 ans qui vit en Gaspésie dans les années 40, près des montagnes des Chic-Chocs. Et ce qui est particulier avec cette petite fille-là de 11 ans, c'est qu'elle porte une barbe. Donc, elle vit isolée dans sa petite communauté qui est Rivière-à-Pierre, qui maintenant s'appelle Mont-Saint-Pierre. Et elle décide qu'elle en a assez d'être enfermée avec sa mère dans la maison et décide de s'enfoncer dans les bois pour vivre de manière autonome. Et c'est là qu'elle va découvrir, qu'elle va faire la rencontre d'animaux, entre autres, qui vont lui apprendre qu'elle a besoin des autres pour survivre parce que c'est une petite fille qui ne veut pas être imprégnée des autres. Elle veut rester elle-même et elle ne veut pas que les autres la dérangent, qu'elle est bête. Elle est toujours dans son brouillage. Elle fait pas la distinction beaucoup entre ce qu'elle est puis ce que les autres sont. Puis elle s'approprie toujours ce qu'elle rencontre. Puis voilà.
Donc, il y a d'ores et déjà le processus quand même de transformation. Pour celles et ceux qui étaient là lorsque j'ai tenté de faire une communication, je vous avais spécifié ce qu'était l'hirsutisme. Donc, elle est atteinte de cela, notre narratrice. Donc, elle est déjà particulière, déjà entre guillemets en sauvage et transformée. Hein. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'elle rentre plus facilement en communication? Cette espèce de différence déjà qui l'éloigne de l'humain?
Oui, en fait, elle a de la difficulté à savoir si c'est une femme ou un homme à un point parce qu'elle se regarde sa mère, elle aime beaucoup sa mère, mais en même temps, elle regarde son père, puis son père a une barbe. Puis là, elle se demande si elle est un homme ou une femme. Puis les hommes dans son village partent dans le bois, donc elle décide de partir dans le bois aussi parce qu'elle se sent un peu mal. Puis parce qu'elle ne fait pas la distinction vraiment bien entre ce qu'elle est puisqu'elle rencontre, elle devient un peu animale à un moment donné. Elle va faire la rencontre d'un coq. Là, il va y avoir un extrait que je vais vous présenter. Là, je suis en train de préparer l'extrait.
Très bien.
Elle va faire la rencontre d'un coq. Puis là, elle ne fera plus vraiment la distinction entre ce qu'elle est puis l'animal. En fait, ce qui est particulier, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup chez les enfants, c'est que justement, chaque fois qu'ils rencontrent quelque chose, ils se projettent toujours dans cette chose-là. Vous avez été enfant, vous le savez. Si on va dans le bois, on joue à l'amérindien, on joue on va à la chasse. Si on rencontre une vendeuse de chaussures, après on joue qu'on est vendeuse de chaussures. Donc les enfants, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas vraiment la différence entre eux et les autres. Puis ils sont très empathiques et ils pensent, je pense que les enfants, en général, sont un peu animistes, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a une espèce de force vitale qui traverse tous les êtres, en fait. Que tous les êtres, la pierre, l'arbre, l'animal, a une personnalité, un sentiment, des sentiments, voilà, une volonté. Et c'est pour ça que les enfants, je trouve que c'est plus intéressant de travailler sur l'animal, dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas de frontières, en fait.
Mais en même temps, ta narratrice qui a un point de vue donc naïf, hein, un petit peu vierge, j'allais dire. Tu joues avec, parce qu'évidemment, il y a l'écrivaine qui est extrêmement référencée. Donc, le lecteur a à la fois cette approche-là, mais toi, par derrière, avec une quantité, en tout cas, il me semble, de références. Et moi, je me posais donc en première question, références, qu'est-ce qui t'a nourri le plus, littéraire, cinématographique? Est-ce qu'il y a des choses qui ont impulsé, initié, Barbe?
En fait, c'est très difficile de répondre à la question parce que Barbe a été écrit tellement sur une longue période que puis j'ai fait beaucoup d'arrêts, donc j'ai été influencée par plein de choses. Parce que ça fait 3 ans que j'ai terminé, qui est publié. Donc là, j'ai beaucoup de distance. Puis je me suis rendu compte que, ben, premièrement, le livre a été influencé par des pages que j'avais dans mon journal intime. Donc, ça part un peu de ce que j'étais quand j'étais plus jeune, adolescente. Mais après, j'ai vu La Belle et la Bête, puis je me suis dit, mon Dieu. Je veux dire, c'était mon film préféré quand j'étais petite. T'sais. Je veux dire, la bête qui est
Celui de
l'homme.
Cocteau.
Non, La Belle et la Bête de Disney.
Ok.
Quand j'avais 4 ans.
Mais tu
Mais
sais.
Quand je l'ai vu après à l'université. Donc, oui. Puis j'ai vu aussi un film avant l'écriture qui est un film de Michael Schanberg qui est Fur, An Imaginary Portrait of Diane Arbus. Diane Arbus qui est une photographe. Et dans ce film. Qui est très imaginaire, c'est pas une biographie de la photographe. Elle rencontre et tombe amoureuse d'un homme complètement velu. Donc, ça, c'était un de mes films préférés aussi. Donc, ça m'a aussi influencée, mais je m'en suis pas rendue compte quand j'écrivais. Donc, ça a tout été un peu inconscient. Puis, j'aimais aussi beaucoup Elephant Man de David Lynch, donc la question du monstrueux. Puis il y a plein d'autres livres aussi, Truisme de, je vais sûrement le dire pas comme il faut, le Marie Dariosek.
C'est très bien.
J'ai de la difficulté à le dire. C'est ça, il y a eu beaucoup d'influence, mais j'ai pas voulu écrire, je me suis pas dit, je vais, j'ai vu un film, puis après je vais en faire un.
Non, mais on sent qu'il y a un sous-texte.
Oui, c'est ça.
On sent que c'est nourri, tout à fait, tout à fait. On est dans du culturel par une voie. Je dis bien faussement naïve, avec une série de références religieuses ou autres, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup à s'amuser. Toi, Dominique, pour ressurgir sur, rebondir sur ce culturel, tu as un point de vue donc, qui n'est pas du tout naïf, qui est, je trouve, très mature, très, très mûri, très articulé. On sent la digestion de grandes références par derrière. Est-ce qu'on voit d'abord, on en parle après? Comment
c'est
tu peux
comme vous
faire?
Voulez, je pourrais dire une phrase tout simplement. Mais moi, ce qui m'a accroché, c'est l'idée de transformation, métamorphose. Alors, on est dans une phase, premièrement, en tant qu'artiste, nous vivons en société, n'est-ce pas? Et tout le monde est, on est dans le même bain. Donc, on est dans un bain présentement où on nous dit qu'on est dans la 6e période d'inspection des espèces. Ça se passe. Et l'électricité, on en est très dépendant pour toutes nos technologies. Et en même temps, ça alimente l'informatique. Puis l'informatique a permis de décoder le génome. Donc, on est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va être capable d'intervenir sur le vivant d'une autre façon que de cuire. Hein, de toutes les façons, pour produire de l'électricité, on brûle du charbon, on cuit la nourriture. Alors, on a toutes fait nos transformations par la fusion. Jusqu'à présent, puis là, on rentre dans un autre domaine, il y a une autre porte de Pandore qui s'ouvre. Alors, je dirais, oui, c'est ce que je dirais. Mais allez, il y avait le mot transformation, puis je pense que... Puis aussi la fin des catégories, ça c'est heureux, très séparées, masculin, féminin. Alors ça, c'est dans mon travail aussi. Toutes les catégories, nature, culture. Il n'y a pas de frontières. Il y en a dans un spectre et ça reflète beaucoup plus la réalité. On a tous du masculin et du féminin. On Alors, je vais vous bombarder parce que je vais prendre 3 minutes. Tout est sur mon site. C'était ça le diaporama. C'est mon nom. Et je vais... Ça fait partie de la série Prométhée où je me mets en scène et on est très dépendant de l'électricité. Alors, il y a un rapport aux écrans, à l'électricité. Et ici, c'est arrivé par hasard. Elle va me poser des questions, je suis certaine. Non, je fais quoi? Et ensuite, j'ai développé parallèlement une série de collages et la relation à l'insecte. Ici, je me transforme en insecte pour mieux m'adapter au changement climatique. J'ai une vidéo aussi. Et là, je flotte dans le East River. Et ça, c'est la série de collages où je parle plus de la manipulation génétique. Voilà. Et la femme augmentée. Il y a la technologie, il y a des drones dans celle-là. Ici, il y a des sirènes qui sont augmentées par les muscles, surtout. Et ici, il y a la surcharge de l'environnement. Ça, 2 mètres de haut. Pour vous donner une idée, c'est ça, ça a l'air très dense. Je ne sais pas comment ça paraît ici, mais en vrai, c'est au moins comme ça. Alors, ça parle de la surcharge de l'humanité sur l'environnement. Et là, j'ai une toute autre pratique après la robe qui flottait, la structure flottante. Maintenant, j'ai intégré la technologie Et ça, ça donne le code de couleur de la qualité de l'air. Mm-hmm. Et celle-ci, le revenu médian des ménages là où je marche. C'est comme si l'interface technologique était devenue nécessaire pour rencontrer les gens dans l'espace public. Ce sont des illustrations botaniques qui ont été faites par Maria Merian. Et elle est allée en 1699 au Suriname, et c'est la première qui a documenté pour les Occidentaux les insectes dans leur habitat et les étapes de leur métamorphose, de leur différentes. On n'avait pas fait le lien avant elle en Occident. Et elle les a représentés dans l'habitat. Donc ici, j'ai détaché les insectes, j'ai pris deux illustrations et j'appelle ça in vivarium, in vitro. Et c'est comme si Myriane, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait, Myriane? Est-ce qu'elle s'amuserait à faire de la manipulation génétique? Ici, j'ai fait des espèces de petits êtres hybrides que je vois, moi, comme en réponse, comme peut-être des protecteurs personnels. Ou, tu sais, ça s'est influencé dans mes collages par l'idée du mini-drone insecte. Les mini-drones militaires sont présentement inspirés par la forme des insectes. Alors, je vais aller à la prochaine vidéo. C'est présenté en boîtier et en boucle. Il y a un objet. Ça devient un objet, comme si c'était dans un vivarium. Et ici, c'est parallèlement. Je vais aller dans VLC. Je me suis amusée à me transformer en insecte pour mieux m'adapter. Et je clique dessus pour plein écran. Oui. Ça, c'est pendant une résidence à New York. C'est ça, sur une île. Une île qui fait face au centre-ville de Manhattan, qui est au sud. Et ça, c'est un magasin de poudre. C'est le phare où on défendait Manhattan. Et je me suis tranquillement transformée en insecte pendant cette résidence. Et la fin de cette vidéo où je finis dans l'eau. À l'idée, c'était mon idée de départ quand je suis allée à Manhattan, mais j'ai pu la réaliser seulement quand il faisait chaud à la fin. C'est prête à porter, prête à flotter, dans le sens que s'il y a une montée, nous étions en 2011 quand j'ai soumis le projet, c'est avant toutes les tempêtes, je me disais, si l'eau monte soudainement, moi je suis prête. Alors il y a une approche qui est un peu de l'absurde, du dérisoire, on ne fait rien présentement vraiment pour éviter que la température monte beaucoup. Bon, il n'y a pas beaucoup d'action, mais moi je vais être prête. C'était dans cette idée-là, ça joue en boucle, mais dans la vidéo, ça joue pas en boucle. Et peut-être le dernier extrait, ce serait de commencer avec... Alors, la dernière résidence, j'ai eu une surprise. Ici, le son est important, je ne vais pas trop parler, mais je voulais simplement documenter le changement soudain de revenu. Les gens voulaient me parler. Alors, j'ai eu une toute autre pratique qui s'est développée. J'ai dû munir d'un micro. C'est les zones de revenu. Amara montre le revenu.
It's a world unto itself. So people speak so many different languages. It's a real melting pot. I mean, you know, it's almost a country unto itself. So you lose that diversity, you lose the whole spirit of New York.
Ah, je suis allée dans des quartiers avec beaucoup d'embourgeoisement. Alors c'est ça, on peut arrêter là.
Ben, c'est parfait. Je pense qu'on a, on a comme ça une très bonne approche de ton travail. Je t'en remercie beaucoup. Tout de suite, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis par rapport à la limite et à l'interaction, c'est-à-dire... tu te mets en scène, il y a la limite du corps, tout ce que tu vas faire pour dépasser cette limite, hein, par le biais par exemple de la technologie, les règnes qui finissent par se superposer quand tu travailles tel ou tel animal. Et ce qui m'intéressait particulièrement, c'est la question, donc, quand tu te mets en scène, de cette interaction dont tu nous parles, c'est-à-dire tu ne t'attends pas à ce que le public... arrive.
Ah oui, ça c'est une autre... Oui.
Et donc là, les limites, voilà, la limite corporelle dans la performance est déstabilisée parce que le public a envie de te parler.
Oui. Alors, mais c'est parce que si je rentre dans cette conversation-là, on s'éloigne de l'animal, ça va?
Non, parce que je vais la poser je vais la poser à Karine, qui est une manière, tu vois, de... Parce que Karine, en termes de performance, justement, mettant en scène tout un rapport très fort à l'animal, là, a des réactions, non pas comme toi, des gens qui ont envie de te parler, mais certainement peut-être des réactions très vives et directement sur ce que tu fais.
Oui, bien, en fait, quand j'ai commencé à faire les performances, parce qu'il faudrait, peut-être faudrait que je joue. Il a fallu, quand j'ai commencé à compiler ou à mettre sur Facebook les images, il a fallu rapidement, en fait, que je mentionne qu'il n'y avait pas d'animaux qui avaient été tués lors des performances. Il y avait la nudité. Oh, ça marche. Ouais. Ça, c'en est une. Les images, normalement, elles défilent. Et c'est ça parce que je travaille toujours avec des animaux morts. Mais c'est presque toujours. Puis, comme par exemple, la première performance que j'ai fait à vie, je pense que j'ai des images dessus, complet. En fait, c'est qu'on était deux. Puis, on était dos à dos, on avait des oiseaux morts, mais c'est que dans l'intervention, c'est que je prenais l'oiseau et comme ça, j'étêtais l'oiseau et je faisais ça comme ça ici. Donc, ce qui était fait à l'oiseau m'était fait aussi symboliquement à moi. Et la personne au dos, en fait, la performance, la façon qu'elle était construite, c'est que c'est tiré d'une légende indienne qui dit qu'il y avait deux oiseaux sur une branche, il y avait un qui était en panique et était incapable de manger et l'autre dévorait la pomme. Puis que donc les deux on était dos à dos et on représentait cet oiseau-là en fait. Puis mais quand les gens, puis c'était ma première performance un peu particulière, commencer par ça, mais quand je faisais ça, moi je voyais le visage, j'étais très stoïque, mais je voyais le visage des gens autour et par la suite la salle était bondée et il y a une odeur aussi de mort qui, moi je suis rendue quasiment trop habituée à ça, mais une odeur très particulière qui se dégageait aussi dans la salle. Et les personnes, par la suite, étaient sûres, en fait, que les oiseaux étaient vivants, premièrement. Puis moi, j'étais comme, non, ils étaient morts, mais qu'il y avait vraiment une réaction très, très violente et immédiate. Il y a d'autres performances, par exemple, qu'il y a des personnes qui se sont évanouies, littéralement. Il y en a une qui s'est allée libérer de Raffin. On m'avait demandé d'être trash, littéralement. C'est comme pas la chose nécessairement à me demander pour dire que je suis capable. Puis en fait, c'était celle-ci. Je vais essayer de la trouver rapidement. Oui, c'était celle-ci. En fait, c'est à partir d'un texte de Stieg Dagerman qui est absolument magnifique, qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Puis en fait, ce qui arrive, c'est qu'à la fin, parce que c'est un texte qui montre vraiment le déchirement, si tu arrêtes de crier, est-ce que tu es... ça vaut encore la peine de vivre. Parce qu'en fait, il se suicide après le texte. Il se suicide par asphyxie. Puis moi, dans le fond, je suis habillée en homme. Je lis le texte, des sections du texte. Pendant ce temps-là, je suis grimpée sur une table, assise sur une table. J'arrive avec un gros sac dans lequel il y a un magnifique Red Eyes qui est... La chair est couleur peau, l'œil est rouge. Mais en fait, je sors le serpent du sac, je l'insère ma poche de pantalon, je la ressors par la braguette, ce qui devient, parce qu'en fait, je travaille beaucoup avec le serpent, mais le serpent prend un sens différent dans toutes les performances. Il n'y a pas une fois qu'il reprend le même sens. Plus je parle, en fait, plus je me masturbe. Je masturbe le serpent, en fait, mais bien sûr qu'il ne lève pas. Donc, c'est toute l'idée du pouvoir de création. Puis, finalement, je suis le coupé et finalement, à la fin, le serpent vient dans ma bouche. Il m'asphyxie, mais il devient comme, dans le fond, l'impossibilité de s'exprimer. Mais là, il y a une femme qui s'est évanouie aussi à l'avant. En plus, parce qu'il y avait des enfants dans la pièce, moi, je disais, il n'est pas question que je performe devant les enfants. J'ai une enfant moi-même, je dis, elle connaît mon travail, je n'accepterai pas qu'elle voit littéralement quelqu'un qui se tranche ce qui est en fait le pénis. Il n'y en est juste pas question. Parce qu'il dit, ah non, mais moi aussi, je suis capable d'être trash. Je dis, t'as pas compris. Je dis, parce que lui lisait des poèmes par rapport à des textes par rapport au sida. J'ai dit, l'image que moi je vais sortir, oublie ça, l'enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va le voir.
parce que là, il était caché derrière, les choses ne sont pas vues. Par la suite, c'était un peu rigolo parce qu'il y avait des gens qui étaient un peu en train de malaise. Puis il y avait aussi un petit oiseau, il y avait d'autres choses. Mais les enfants, par exemple, sont venus, mais moi, je leur parlais des animaux. Et eux n'ont pas de gêne du tout. Ma fille, elle voyait les animaux morts, lesquels je travaillais les crânes. Mais les enfants, il n'y a absolument aucune gêne ou de malaise là-dessus. Parce que la façon aussi que je vais approcher l'animal... c'est pas juste la mort, le côté laid, celle-là est particulière, là, je dis. Les performances ou les œuvres que je fais, c'est pas nécessairement juste le très trash lourd. Généralement, j'ai trouvé la beauté, je joue sur des diades. Là, c'est parce que le symbole, j'avais besoin pour celle-là de jouer là-dessus. Mais les enfants, c'était assez particulier, réaction, le clash entre les deux.
Ce que tu nous montres, Julie, c'est-à-dire ce rapport, quand il y a enfant, on est dans une autre dimension qu'on a oubliée, hein, quelque part, c'est-à-dire que tout notre environnement est poreux, il n'y a pas de tabou, tout advient de manière naturelle, et voilà, effectivement, toi, tu es obligée de faire un site en disant attention.
Oui, non, c'est ça. Oui, parce prévenir. Que les réactions au début, parce que là, par la suite, mon travail est un peu plus connu, donc les gens sont habitués à faire Karine Turcot, ok, ça va aller. Mais au début, les gens, les images étaient quand même fortes, tu sais, comme celle-là, c'est dans un lieu public, c'est une performance, en fait, qui a eu lieu. Il y a trois séquences différentes. Encore avec les serpents, mais c'est dans un lieu public vraiment où toutes les familles passent. C'est sur 3 jours, c'est 2 ou 3 heures par jour. Puis moi, je suis dans ma bulle, puis il y a des enfants ou des personnes qui viennent parler ou interagir, mais moi, c'est comme je maintiens mon cap, comme on voit la photo. Mais ça, c'est intéressant de voir le questionnement des enfants. La limite, c'est pas les enfants qui le mettent par eux-mêmes. Ils sont très curieux. Ma fille, elle, c'était rigolo parce qu'à la maison, j'avais plein de crânes de vaches pour une installation. Qui s'appelle La vie en rose.
Oui.
Celle-ci. Il y a 50 crânes de vaches et de chèvres. Puis elle ne comprenait pas, elle avait 6-7 ans, elle ne comprenait pas pourquoi je disais que les gens, le fait qu'elle ait du rose, elle allait être plus attirée. Parce que c'était ça qui était intéressant, c'est-à-dire de voir le côté très cupcake du silicone, mais que derrière, tu voyais vraiment le crâne qui n'était pas du tout nettoyé. Puis elle ne comprenait pas. Elle dit, mais pourquoi les gens sont plus intéressés? Puis je dis, tu demanderas à tes amis, parce que là, elle a amené des amis à l'école, puis ça a toujours été ça. Puis il y a plein d'animaux. Alors, bon, c'est en son plaisir que je sorte les choses du congélateur, en fait.
Je comprends.
Puis elle voyait que finalement, ses amis disaient, non, le rose, c'est attirant, mais les crânes, il y avait malaise. Mais elle-même, elle ne comprenait pas.
Mais toi, Karine, tu joues beaucoup plus le côté, finalement... j'allais dire plus lisse, si je peux me permettre. Tu n'utilises aucun animal mort.
De ce que j'ai vu. C'est souvent de la fourrure recyclée ou des animaux déjà naturalisés ou je les fabrique de A à Z. Là, c'est vraiment.
Il y a un côté ludique qui est quand même présent qui fait que.
Moi, c'est la momification. Il n'y a pas de taxidermie.
Voilà.
C'est direct. Ou l'animal. Vraiment, je ne pourrais pas... C'est ça, c'est un questionnement. J'aurais de la difficulté à travailler avec quelque chose de faux. Mm-hmm. Ça serait une approche complètement différente.
Bien, c'est ce qui m'a amené dans le fond, à réaliser mes animaux de toutes pièces, à les sculpter, parce qu'au début, bien, les animaux naturalisés sont déjà dans une position déjà prédéterminée. Puis, tu sais, souvent, bien, c'est pas nécessairement ce qui vient avec mon concept. Fait que j'ai commencé, dans le fond, à les fabriquer moi-même et non les utiliser en paille.
Oui, parce que souvent, il y a des formes, en fait, qui sont déjà... C'est rendu tellement standardisé qu'on peut acheter des formes, en fait, Je veux dire, comme les renards vont tous avoir la même position. Ils ont tous le même. Ils ont comme fait à la chaîne. Mm-hmm. C'est rare, les taxidermistes qui vont faire leur propre corps, en fait.
Mm-hmm, exactement. J'avais déjà fait une œuvre qui s'appelle juste avant. C'est un chat qui est à peu près à 3 pieds du sol. Puis, en fait, on est comme dans un mouvement arrêté. C'est comme une photographie. Puis le chat, ben, on attend de voir s'il va tomber sur ses pattes ou sur le dos. Mais il est à la limite que si c'était une vidéo puis on faisait play, il tomberait sur le dos. Parce qu'un chat, en fait, je pense que a un niveau de 4 pieds qui peut rapidement se retourner. Donc, je l'avais mis plus bas vers le sol. Puis il était aimanté avec un tapis. Puis dans le fond, il flottait vraiment sur le tapis. Mais ce chat-là, en fait, était naturalisé. J'étais rentrée en contact avec un taxidermiste qui avait de la peau... d'un chat dans son congélateur. Il l'avait trouvé dans un... je pense que c'était dans un endroit vaste. Puis, il avait décidé de garder la peau sans nécessairement faire quelque chose avec. Donc, moi, j'étais arrivée avec l'idée, le mouvement, la forme, puis là, il l'avait naturalisé. Mais ça avait aussi fait beaucoup parler à l'exposition, là. Tu sais, les gens pensaient que je l'avais tué pour l'exposition. Tu sais, ça l'amène vraiment beaucoup de questionnements. Puis, bien, tranquillement, c'est ça, j'ai commencé à les fabriquer moi-même ou un peu me distancer par rapport à la forme.
Là. On est très loin de Yann Fabre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, son jeté de chat dans les escaliers pour une exposition. Donc, des chats vivants.
OK. Puis, il est lancé.
Il est lancé. Alors, il avait mis des couvertures quand même pour atténuer le choc, mais il se faisait abîmer. Enfin, bon, c'est... On peut d'ailleurs se poser la question toute ici, c'est est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire ça aujourd'hui ?
Non.
Est-ce que ça serait... Moi, je pense qu'il y aurait procès.
Oui, c'est ça. Ben oui, le bien-être animal.
Si je peux rajouter... Moi, je suis allée dans le Grand Nord, puis avec les Inuits, puis les Inuits mangent du phoque, là, je veux dire, c'est tellement cher la viande, puis les conserves de légumineuses, tout ça, donc ils mangent du phoque. Puis il y a souvent des images, ils mettent sur Facebook des images d'enfants, de bébés qui mangent du phoque cru, qui ont du rouge autour. Et là, scandale, les gens, ils partagent ça, puis juste voir un enfant qui mange du phoque, c'est comme un scandale. Je veux dire, donc, lancer un...
Il y a quand même plus à manger un hot dog.
Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il y a du sang. C'est parce qu'il y a un enfant avec du sang, donc c'est un scandale. Donc, si ça, c'est scandaleux de voir un enfant qui mange du phoque et lancer un chat dans les escaliers, ça passe pas.
Oui, mais j'ai oublié, mais il y a pour aller un peu plus loin et revenir peut-être sur le sujet en le mettant... Alors, l'artiste chinois, il est très connu, son nom ne me reviendra pas. Il était à Lyon à l'époque et il faisait une superbe performance dans une indifférence absolument générale. Il faisait cuire à la poêle les fœtus humains.
Mais il y a une controverse là-dessus pour dire que ce serait monté.
Voilà,
ce serait faux.
Mais en même temps, c'est intéressant de voir que c'est posé tel que et que les gens passent devant et que personne ne réagit. Donc, on est vraiment l'image.
Je ne me rappelle plus s'il y avait des gens en fait qui étaient présents. Je pensais juste à une vidéo qu'il faisait. Mais je ne suis pas sûre que c'est...
C'est-à-dire que les gens passaient devant, mais tu sais comment on peut faire dans une expo. Mmh. Là, on passe 30 secondes, puis on ne s'arrête pas, puis on ne pas, puis on s'intéresse pas. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est cette image... On en parlait ce matin, hein, d'ailleurs, c'était passionnant. Donc toi, on est plus dans le processus de fictionnalisation par rapport à Karine, qui est dans l'objet... mort. Hein? C'est une des questions que je voulais te poser. Les serpents que tu utilises sont toujours morts. Ouais. Dominique aussi, c'est dans Prométhée particulièrement. Là, on est...
Ce sont des animaux naturalisés.
Aussi, désuets.
Oui, c'est vrai. Dans un entrepôt, on n'a plus d'endroit pour les... Ils étaient au Musée des Beaux-Arts de Québec avant. Les années 60, les musées se sont débarrassés de leur collection d'animaux naturalisés. Puis je suis tombée dessus par hasard à l'Université Laval, dans les collections.
Très bien.
Oui, et j'ai eu le coup de foudre de ces animaux. Mais oui, c'était un hasard qui m'a amenée. Et puis pour moi, c'est la suite. J'avais travaillé beaucoup avec l'histoire de l'art et ensuite, je suis passée à l'histoire naturelle.
Il y a un pont. Oui. Tu ressens cela.
Oui, c'est... Et je crois que le passage à l'histoire naturelle s'est fait parallèlement avec les animaux naturalisés, qui sont maintenant désuets, dans le sens que je pouvais les déplacer, je n'étais pas dans un environnement muséal, pour établir une relation avec eux. Et en même temps, je suis tombée sur les planches botaniques. C'est assez parallèle. Alors, les deux sont développés parallèlement. Mais ce que je trouvais intéressant, je trouvais les animaux intéressants parce que ça fait un continuum. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Donna Haraway, je sais que c'était dans L'Appel, qu'elle parle de continuum. Alors, je le vois comme ça, l'appel entre l'animal, l'humain et la machine. Il n'y a pas de distinction. Alors, c'est un peu ce que je présente en général dans mon travail. Oui, je trouve
ça. Et toi, Karine, en parlant d'histoire naturelle, je vous invite tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller chez Circa et à découvrir j'aimerais que tu nous présentes, en parlant d'histoire naturelle, un nouveau spécimen.
Oui.
Un étrange spécimen.
Une race inconnue. En fait, c'est ça, dans mon travail, je m'intéresse, tu sais, comme je m'inspire beaucoup du réel, mais en même temps, je suis souvent en marge. Donc, il y a beaucoup le côté de la fiction.
En bas. Le petit compte par le point.
Ah, OK. Je fais OK ici.
Ouais, c'est
F5. OK. Je vais aller à l'image. Juste pour revenir comme à la taxidermie, à la naturalisation.
Pavlov.
Comme Pavlov, voilà. Lui, a été fabriqué vraiment de rien, là. Tu sais, c'est en fait, c'est de l'argile. Après, j'ai fait un moulage en silicone. La fourrure, c'est recyclé. Donc, tu sais, ça ne part pas d'un vrai animal. Mais pour revenir à Circa, qui est présentement en cours jusqu'à la fin avril, l'œuvre s'appelle « À perpétuité ». Puis, justement, en parlant des musées d'histoire naturelle, j'ai été inspirée pour, tu sais, c'est le début d'une nouvelle série sur les espaces, pas conditionnés, mais les espaces confectionnés par les humains pour les animaux, comme les zoos, les biodômes, en fait, les pet shops. Puis, j'ai été inspirée, j'étais à Berlin, au zoo de Berlin. Puis, c'est comme un amour-haine, là. C'est que j'adore les animaux, mais en même temps, ces endroits-là, c'est de l'émerveillement, mais en même temps, c'est de l'attraction-répulsion. On les voit vivre dans leur écosystème qu'on leur a fabriqué. Puis, souvent, j'ai pu observer on appelle ça des zoocoses. C'est comme un mélange de zoo puis de psychose. C'est que les animaux perdent un peu leur repère d'espace et de temps. Puis ils se mettent à avoir des manies physiques, donc un peu comme une psychose, en fait. C'est que leur espace est soit trop petit, puis comparativement à l'humain, ils n'ont pas la possibilité de dire, de penser à demain ou dans la minute qui s'en vient. C'est qu'ils sont toujours dans le moment présent, puis on leur enlève la possibilité de penser à rechercher de la nourriture parce qu'on leur emmène. Leur espace est restreint, fait qu'ils ne peuvent pas nécessairement comme... circuler dans leur espace puis découvrir. Donc, ça reste toujours le même espace. Donc, suite à cette observation-là, en fait, d'un éléphant qui se balançait de devant à derrière, comme s'il était attaché, en fait, on pouvait voir sa chaîne, mais elle n'était pas présente. J'ai réalisé une installation qui s'appelle « À perpétuité ». Puis, à l'intérieur, en fait, c'est trois aquariums dans lesquels l'eau est troublée. En fait, on ne voit pas la transparence, c'est comme un bleu turquoise. Puis à l'intérieur des aquariums, on voit un genre d'animal, une bête, on ne sait pas trop. Il y a des poils, on ne peut pas la nommer, mais celle-ci, elle tourne en rond de façon continue, en fait, à l'infini. Donc, on la voit apparaître, disparaître, sans nécessairement voir la totalité de la chose, mais juste vraiment le bout de sa queue. Qui vient flatter un peu les côtés de l'aquarium. Puis ici, il y a une petite vidéo qui montre un peu le mouvement. Peut-être que je pourrais le montrer comme on avait dit. C'était Escape.
Oui, parce que le voir en mouvement, ça va vous donner vraiment une autre dimension.
Ouais.
Je trouve ça fascinant.
Double-cliquer dessus.
C'est bon.
C'est ça fait comme une ambiance méditative aussi. Tu sais, le mouvement répété de l'animal. Puis encore là, comme on est attiré, mais en même temps, il y a quelque chose qui, à long terme, est désagréable. Parce que là, on se demande, c'est-tu vrai, c'est-tu faux, c'est quoi? C'est pris, ça tourne en continu en rond. Donc là, on le voit plus, le mouvement, on va le voir aussi en gros plan. Donc, je me suis intéressée, puis je m'intéresse, tu sais, comme dans mes prochaines recherches, aux espaces que l'on crée pour les animaux, les êtres vivants, en fait, en général.
Est-ce que je peux prendre le relais?
Mais vas-y, justement.
D'accord, parce que lors de ma résidence à New York, je faisais face aux édifices du centre-ville qui est situé au bas. Il y avait l'eau qui nous séparait. Je voyais tous les édifices. Et puis, les plus récents, ils sont des cages de verre. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée de l'aquarium. Je suis allée à l'aquarium, je suis allée au zoo. Et puis, j'ai pas pris cette piste-là, j'ai pris une autre piste, mais il y avait cette idée qu'on enferme les animaux dans des aquariums et dans des espèces de présentoirs qui sont très beaux au zoo de Bronx. Mais les êtres humains rentrent dans un aquarium tous les jours, qui sont ces tours de verre, qui sont dans des environnements contrôlés, parce que je faisais face à toutes les tours, et en architecture, les vieilles tours, on pouvait ouvrir les fenêtres. Et plus on avance dans le temps, il y a encore l'embrassure d'une fenêtre, mais à un moment donné, on ne peut plus les ouvrir. Puis maintenant, il n'y a plus de définition. C'est comme s'il n'y a plus d'individualité d'une certaine façon. D'une certaine façon, c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai pensé à Kafka, la métamorphose. Et puis, parce que le type, il travaillait dans un bureau où c'était un... Oui, voilà. C'est le lien. C'est comme ça que l'idée de Kafka m'est venue. Et puis, que je me suis transformée en insecte. Mais aussi, je ne sais pas pourquoi j'achetais des contenants d'œufs, c'est vertical. J'ai commencé par faire des tours avec, les mettre vis-à-vis les tours. Puis j'avais travaillé avec la bouteille de plastique avant, mais c'était comme mon propos parce qu'elle se transforme par la lumière. Il y a un regard esthétique, mais aussi, il y a un point de vue environnemental. C'est facile de trouver des bouteilles, il y en a trop. Voilà. Mais il y a cette idée que... Et ensuite, moi, je me suis fait... ça, je ne l'ai pas montré, mais j'ai fait des habits où je me recouvrais complètement d'une coquille, un bodysuit, comme si j'étais dans une tour. Je m'étais fait une tour personnelle. Et puis, c'était un peu un choc, parce qu'en tant qu'artiste, les studios là-bas, c'est ouvert de 9h à 6h. Alors, et puis, pas le week-end. Alors, tu prends le métro le matin avec les gens qui vont travailler dans le secteur, dans ces tours. Alors, j'avais ce rythme-là. Alors, je l'ai comme simulé.
Et toi, puisqu'on est sur Kafka, on a fait pas mal de références, j'ai noté que tu avais des titres aussi qui étaient toujours très, 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 très ciblés, très référencés. Est-ce que ça participe est-ce que c'est le titre qui fait partir l'œuvre? Est-ce que...
En partie, c'est-à-dire que j'ai toujours une idée très définie de ce que je vais faire, mais mes actions sont toujours définies en 3 points. C'est toujours qu'est-ce que je fais. Très bien. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Un peu... je suis maniaque des livres. J'adore tout ce qui est référence. On parle de tout ce qui est histoire naturelle. Je suis une boulimique. Si je parle dans un sujet...
Parce que tes animaux sont souvent en rapport avec le sacré.
Oui, mais en fait, oui, mais le sang, parce que je ne peux pas jouer avec la mort ou avec des animaux comme je le fais sans savoir ce que je fais.
On sent que...
Parce que le dérape peut se faire rapidement. Le côté gore que j'aborde, le côté sorcellerie, on oublie ça. Je veux dire, c'est pas ça.
Tu encadres avec le titre.
Oui.
Un peu.
Oui,
c'est ce qu'on ressent.
Important. Oui, pour moi.
Et en même temps, tu me déplaces le regard.
Bien, c'est-à-dire que toutes les notions de perception, en art, on est tellement tributaire de ça, on n'a pas le choix. Mais je veux dire, l'ensemble peut aller dans une direction. Puis comme je disais tout à l'heure, par rapport aux performances, si j'utilise un serpent dans 6 performances différentes, le sens change. Il y a une image que j'aime bien utiliser là-dessus, qui peut paraître très anodin. C'est une histoire par rapport à un Japonais qui était mandaté par l'empereur de quitter le pays. Il était condamné. Un maître de thé l'avait invité à prendre le thé. Tout est dépouillé et tout est vraiment défini dans le rituel du thé. Il avait supposément mis une calligraphie particulière, en fait, que l'empereur lui avait donnée. Et juste pour ça, ben, il y a eu la mise à mort à cause du choix de calligraphie qu'il avait mis. Des fois, ça prend rien que les choses basculent.
Ça bascule.
C'est pour ça que tout mon travail est posé sur la limite. La vie, la mort, le plein, le vide, le mouvement, l'inertie. Je veux dire, c'est que les rencontres de dyades. J'aime bien tout ce qui est particulier invisible, la limite entre le plein et le vide ici, les physiques quantiques. Mais le sens ou le symbole, selon justement on parlait tout à l'heure par rapport au justement les Inuits ou l'ethnographie. Je ne peux pas faire la même performance non plus dans n'importe quel pays ou dans n'importe quel contexte. Il y a des performances qui ont été faites avec des épices. Je dis que si, il n'y aura rien là de faire ça, parce que c'est joli, la couleur, ça allait. Mais là-bas, je veux dire, ça a créé un scandale. Mais ça, il faut être conscient de qu'est-ce, avec, pour moi du moins.
Surtout en travaillant avec les animaux morts. C'est déjà dès le départ, tu sais que va y avoir une réaction, donc tu t'encadres.
Je peux pas y aller n'importe comment.
C'est toute la question du symbole qui est en train de sous-tendre notre conversation, mais j'aimerais bien, Julie, je pense qu'on est totalement prêt pour que tu nous offres du beau symbole.
Oh, tu veux un extrait?
Oui. Oui.
Bon, donc, je vais lire l'extrait qui parle. En fait, c'est que la jeune fille s'est enfoncée dans le bois, est dans une cabane depuis à peu près une semaine, une tempête qui arrive, puis là, elle est obligée de vivre complètement à l'extérieur en hiver, donc ça va pas bien. Et là, elle a faim, évidemment, parce que si je vous ai amené, il faut manger. Puis là, elle voit des poules, elle suit les poules, et là, elle va rencontrer une bête. Donc, un cri, les coups se tendent, l'écu se dresse, et il fait son entrée. Droit, immense. À vue d'œil, il doit faire un demi-mètre. Son torse déborde de sa poitrine. Ses barbillons le rendent si fier qu'il doit cacher son visage derrière un masque, sans quoi on ne pourrait soutenir son regard. Il me voit. Il ne fait pas que flairer ma présence, il me voit. Ce qu'il porte au cou et ce que je porte au menton fait de nous deux êtres belliqueux. Je le hais car il me ressemble trop et je hais tous ceux qui me ressemblent. Ils veulent s'approprier ma place dans le monde. Le coq se rapproche. Ma tête le dépasse, mais il me regarde de haut. Il se gonfle avec plus d'emphase, fait battre ses ailes, propage sa sale odeur sur moi, disperse sa sale odeur délicieuse sur moi, éparpille sa sale odeur délicieusement abjecte sur moi. J'ai envie de plaquer ma bouche contre son corps. Je voudrais le dévorer, mettre des bouts de lui en moi. Par amour, je voudrais lui arracher la moelle et la porter au-dedans de mon corps. Par amour toujours, j'observe son regard doux qui m'écœure. Je me cambre, me miniaturise. Fixe-moi, roule-moi de coups, donne-moi une volée. J'ai la fesse tendre et la joue tout juste velue. Il rapproche ses ailes, me touche, m'effleure. J'entre dans son poulailler où il me pousse sans ménagement avant de refermer la porte. Me voilà en prison au milieu des poules. Ça pue la salmonelle et les plumes et la paille et les bons sentiments. Le coq est là, perché si haut, trônant de si loin, pour peu qu'on adopte comme référence la personne que je suis. Mais suis-je vraiment une personne, moi? Impossible d'atteindre le coq. Impossible de m'offrir en pâture. Impossible de le croquer. Ma face se perd dans un ballet de plumes et de becs. Mon désir est pareil à celui des autres poules. Au milieu de ce délire blanc et duveteux, un oiseau chétif se frotte contre ma joue. Il se glisse entre mes jambes, me prend pour sa mère. Les poules se resserrent, se blottissent, étouffent mon cri dans l'œuf. Il fait chaud, c'est irrespirable. Puis il fait bon, on est bien, enfin. Partout des murs écrasants, rassurants. Des planches pourries et des clous rouillés sans aucune trace d'homme. Ils ont dû être là un jour et maintenant ils sont partis. Il ne reste plus ici que des plumes, du duvet, de la blancheur. J'en ai marre. Je saisis violemment le coq. Le glisse sous ma robe, resserre les cordons de mon col. Il se débat et pipi. D'ordinaire si autoritaire, il ressemble désormais à de la ouate. Il a beau lacérer ma peau, la faire flamber, en déchirer les tissus, il se bat comme un enfant. J'ai peine à croire qu'on puisse lui attribuer le lever du jour. Dès qu'il bouge un peu, son squelette frappe mes côtes. Son petit cœur tambourine comme c'est pas possible. Ça doit être ça, l'amour. Oui, ça doit être ça, aimer. Je dois expérimenter l'amour. Aimer un coq, c'est aimer une bête. Donc s'ouvrir à la rage, donc éviter la sainte paix. Aimer un coq, c'est aimer sans douceur, donc s'ouvrir à l'outrage, donc oser se faire violence. Par intermittence, des cris s'évadent de ma robe, et aux yeux des poules, alors j'acquiers l'allure d'un grand chef. Les poules se tiennent près de moi, disposées à répondre à mes ordres. Avec une voix grave, je leur enjoins de m'honorer, de se montrer belle et docile. Certaines s'adossent à mes mollets, d'autres gloussent des mots grivois. Non, non, vous ne m'aurez pas par le bas de la ceinture, je ne céderai pas à vos avances. Cette nuit, j'aurai un coq pour me réchauffer. C'est un gars, il a chaud. Je serre fort les rubans de ma robe pour l'empêcher de sortir. Son bec s'enfonce dans mon sternum. Mes mamelles saignent. Je me sens alors devenir femelle, une vraie femelle. Soudain, je veux allaiter, m'adonner aux tâches domestiques. Je pense à fonder une famille.
Voilà. Merci beaucoup.
Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de la particularité d'écriture pour celles et ceux qui n'ont pas lu Barbe? Là, ils t'ont entendu, mais ils n'ont pas accès à cette écriture singulière que tu as, notamment dans la ponctuation.
Oui, donc le livre est écrit en fait sans aucune majuscule. En fait, c'est que c'est parti du journal intime que j'écrivais quand j'étais jeune et j'écrivais sans majuscule. Donc, j'ai comme continué à écrire sans majuscule, donc juste des minuscules. Puis là, je me suis demandé, mon Dieu, est-ce que ça sert le roman? Est-ce que je fais ça un peu par paresse? Puis, je me suis rendu compte que ça crée un espèce de rythme, parce que c'est comme s'il n'y avait pas de point. Le fait, il y a toujours des points et des virgules, mais comme il n'y a pas de majuscules, c'est comme si tout se lisait de manière plus fluide. Ça crée aussi une impression de naïveté. C'est-à-dire que on dirait que c'est moins écrit, c'est moins littéral. Il y a aussi des gens qui m'ont dit ça, je m'en étais pas rendu compte en lisant, c'est que quand on lit puis on voit de pas majuscule, ça montre qu'il y a une norme, puis il y a des gens qui n'étaient pas capables de le lire justement parce qu'il n'y avait pas de majuscule. Donc, une petite norme ridicule qui ne change pas grand-chose dans la vie peut déranger. Puis c'est un peu la même chose avec la petite fille qui porte une barbe. Elle porte une barbe, c'est pas si dramatique que ça, mais... Moi, je trouve que c'est un des grands tabous, là. Une femme avec du poil, on a juste à voir les photos de filles avec des aisselles poilues, c'est un scandale, ou des photos de femmes avec des jambes pas rasées, c'est un scandale. Puis l'autre chose, c'est que elle veut pas être dérangée par les autres, elle veut vivre de manière autonome, avoir son individualité propre. Puis, c'est un peu une façon de dire qu'elle écrit. Elle écrit comme elle parle, comme elle est unique. Et à la fin, elle dit qu'elle ne veut pas que les autres transforment ses minuscules en majuscules. Donc, c'est une façon de garder son...
Alors, quand j'ai lu Barbe la première fois, cette absence de ponctuation m'a fait penser à Elisabeth de Fontenay. On n'a pas beaucoup parlé ou effleuré. C'est-à-dire que je pensais au silence des bêtes. Et cette manière que tu avais de nous présenter donc ton texte, cette narratrice qui a ce discours si fluide et si naïf, pour moi était comme un peu un animal en elle qui parle.
Ben il y a plusieurs moments elle fait pas la distinction là, elle se prend pour une poule, après elle se prend pour un coq. Puis elle a toujours des rapports avec les animaux. Par exemple, il y a un animal qui veut rentrer dans la cabane, puis elle veut vivre toute seule comme toute seule de manière autonome dans sa cabane. Puis elle dit aux animaux, je sais comment effrayer les bêtes, on a juste à leur dire des mots car ils ne comprennent que les cris. Donc elle a un rapport avec les animaux particuliers.
Et puis sa mère, il me semble que dès le début la qualifie de petite bête. Oui. Donc on est tout de suite dans le registre animalier, en tout cas nous en tant que lecteur, lectrice, lecteur, hop, on embarque là-dedans en ayant cette image du féminin petite bête, donc de ce silence qu'on comble de part et d'autre, soit par le mouvement, soit par des gestes. Quand tu utilises les serpents, je reviens serpent, je suis désolée, ça m'a tellement fascinée. Ça m'a vraiment fascinée ce que tu faisais, parce qu'au départ, je pensais que moi aussi, à un moment donné, qu'ils étaient vivants, que tu les découpais. Mm-hmm. Mais là, tu nous expliques qu'ils étaient déjà morts quand tu les découpes. Oui. Mais tu leur fais dire des choses par la gestuelle aussi, et en lien avec ton corps féminin, hein, puisque ça se passe beaucoup par la nudité. Vous l'avez vu. Avec les images, donc la chair, ta chair et leur chair.
Parce que chaque objet est connoté, que je veux dire, à chaque vêtement, à chaque chose qui est impliquée, il y a quelque chose, c'est comme un peu une pièce de théâtre ou un livre, quand on fait rentrer une image dans un livre, il y a un impact qui est là, tu ne peux pas l'ignorer. Que je sais plus, que je travaille juste avec les choses qui sont chargées de sens, je ne peux pas non plus ignorer ça, que la nudité, des fois, ça va plus me servir, dans le fond, à ne pas me une certaine neutralité à quelque part.
Ou, mais en même temps, mais il y a quand même une féminisation extrême.
C'est ça, tout à fait, mais sauf que c'est les deux, en fait. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est ça. Mais tandis qu'un objet, il va rentrer en relation avec le corps ou va signifier autre chose, que c'est un symbole que quelque chose avec lequel j'ai pu jouer, en fait. Mais j'ai pas encore été jouée tant que ça avec les vêtements. Mais quoi que, tu sais, je parlais... Par rapport à toi, la réaction, je pense que la réaction la plus forte que j'ai eue, c'était à Berlin. J'avais pas d'animaux morts. J'étais habillée. Tout ce que j'avais, c'est un métronome, un crayon feutre, un ruban adhésif. Je pense que je suis plus tendue. Les images que je provoque sont moins fortes si je travaille avec les animaux.
Alors, avant d'en venir à la lumière, je te mets sous le coude, comme on dit. J'ai une petite question pour Karine, pour finir notre épuiser un peu ce sens-là. Féminin, bête, toi, donc, il y a du corps, mais à la fois du corps habillé, Et si on voit des parties de corps, c'est très identifiable d'un point de vue sexué. Mm-hmm. Ça, j'imagine que c'est un choix vraiment mûri. Est-ce que tu veux nous en parler
Je peux peut-être faire
avec des images
entre nous, peut-être la série de photos. C'est la série entre nous, en fait. C'est ça, c'est peut-être plate, mais c'est pas nécessairement réfléchi. Quand je travaille avec des gens comme cette série photo-là, ou même les animaux, j'ai pas nécessairement réfléchi au genre qui allait toucher l'animal. Puis les animaux sont apparus. J'ai travaillé avec l'équipe des Ducazoo. Donc, c'est une famille qui ont plusieurs animaux puis qui vont dans des écoles primaires pour sensibiliser les enfants à des animaux exotiques qui sont devenus domestiques. Puis, en fait, c'est quand j'étais arrivée sur les lieux que j'ai découvert les animaux, puis on est allé aussi avec l'énergie du moment. On les a pas brusqués. Donc, j'ai fait vraiment plein de photos, tu sais, comme 1000 photos et plus. J'ai utilisé plusieurs animaux, puis ensuite, je sélectionne visuellement ceux qui fonctionnent le plus. Puis physiquement, en fait, c'était des employés
Mais il n'y a pas de choix de je prends ici un homme, je prends une femme.
Non,
ça se fait de manière spontanée.
Ça s'est fait de manière spontanée, en fait. Puis, comme par exemple, c'est sûr que celle-ci, elle qui est utilisée par l'affiche, c'est une amie, en fait. Puis elle est arrivée chez moi avec son chat, puis c'est elle qui a décidé de s'habiller comme ça. Puis je trouvais ça intéressant, justement, puis c'est pour ça que je l'ai sélectionnée aussi, parce que je l'avais faite avec d'autres personnes, mais le style vestimentaire fonctionnait moins bien.
Donc,
donc il y a un choix par rapport
quand même un choix
qui est fait, parce qu'ici, tu sais, ça fait très féminin, la couleur, c'est couleur chair, donc on la sent habillée, mais en même temps, c'est proche de la peau. Puis, tu sais, c'est un tissu très féminin, puis... c'est une amie chorégraphe danseuse, elle est très féminine, ses mains sont très petites, donc ça fonctionnait bien dans ce contexte-là avec le chat, les mains. Puis ici, comme c'est sûr que le poil, je ne cherche pas nécessairement, en fait, je cherche une unicité entre les deux, je cherche l'animal et l'humain, mais qui viennent...
Mais il y a un côté très poétique.
Oui, c'est très poétique, en fait. C'est comme... j'essaie pas de créer des frontières, mais justement plus créer un entre-deux comme qui vient, j'ai pas le mot là, qui fusionner, le mettre ensemble.
Autant Karine est plutôt dans la poésie de la dissonance, il y a une part confrontante dans le visuel, autant toi on est vraiment dans la correspondance des objets-sujets.
C'est comme une symbiose par le toucher, en fait. Fait qu'on le voit aussi avec entre nous trois, donc il y avait un perroquet, puis ici entre nous, je me souviens plus du nom de l'animal, mais c'est un animal exotique qui était devenu domestique parce qu'il veut même se faire prendre, se faire flatter. Fait que dans le processus, je trouvais ça aussi intéressant, de voir ces animaux-là, en fait. Donc, voilà. Ici, c'est une... Vu que je travaille avec plusieurs médiums, donc celle-ci, c'est une sculpture hyper réaliste. Donc, c'est un bras en silicone, puis qui vient toucher un poisson. Mais c'est ça, ici, j'ai fabriqué le poisson. Donc, pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas nécessairement qu'on puisse nommer truite, tachetée ou quoi que ce soit. J'aime ça travailler aussi en marge du réel.
Mais le bras, on sait à qui il appartient.
Ah ouais?
Ça se voit. À qui? à quel genre? On peut dire homme ou femme quand on voit l'humain.
Est-ce que vous pouvez me le dire?
Écoute, alors là, moi, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est un homme. Mais évidemment, tu me fais mettre une tension si tu me dis que c'est une femme.
En fait, c'est mon bras.
Oui, mais le travail...
Mais tout à fait, c'est sûr que c'est...
Tu as joué avec...
J'aime beaucoup l'ambiguïté. Je vous ai dit que c'est mon bras, mais en même temps, on s'en fout un peu. C'est le bras de qui? On sent que c'est masculin, c'est la forme, c'est le muscle.
On sent qu'il y a le muscle, c'est ça. Tu joues sur le visuel, sur le code muscle.
Effectivement.
Mais il est glabre. Il n'est pas poilu.
Voilà.
Non, il n'est pas poilu.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est ça, c'est un poisson.
C'est intéressant avec le poisson.
Oui.
C'est le poisson, tu as le bras sans poil, alors que la femme a le chat et poilu. Donc c'est comme
cette attirance-là, répulsion aussi qui m'intéresse dans le travail. Puis, ben, dans ce genre de série-là, c'est les dernières sculptures que j'ai faites, c'est seulement des mains qui viennent toucher des œufs de caille. Puis, ben, encore là, il y a la pigmentation de l'œuf qui vient comme, j'aime pas dire contaminer, mais plus se traduire sur la partie qui a été touchée.
Mais il y a peut-être un caméléon.
Oui, exactement, vraiment de fusion, caméléon, continuité.
Mais justement, j'aimerais qu'on reparle de Prométhée, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut revoir peut-être des images
bien, oui.
Hein? C'est comme ça, même si on l'a vu tout à l'heure, ça va nous permettre d'y revenir. Et j'aimerais que tu nous parles, Dominique, s'il te plaît, peut-être davantage de ce corps féminin.
Oui,
dans cet espace-là. Avec cette idée du Prométhée féminin,
oui.
Que je trouve pour ma part passionnante.
Cette image, je vais être brève, c'est avant, d'où je viens. La même été, j'ai fait cela. C'était la fin de l'histoire de l'art. C'est une robe de bouteille et de contenant 2. Je vais aller en plein écran. Oui, au milieu. Et on avance la série.
Voilà.
Oui.
OK. Qui est superbe.
Le féminin.
Le féminin. Le Prométhée, puisque on est dans l'histoire de Prométhée.
Ah, c'est une tentative. Quand je travaille en performance, le centre est au centre et le corps est central à ma pratique. Je suis une femme. Bon, je peux pas y échapper. Je ne mets pas de l'avant nécessairement le corps féminin. Je porte ce que j'appellerais un sac. Mais j'essaie d'être là simplement en tant qu'être humain. Et quand on est dans nous, je ne sais pas, moi j'oublie totalement. Je ne pense pas que je suis une femme ou je suis un homme. Je suis. N'est-ce pas?
Tu le ressens pareil?
Oui. Je suis. Je suis là.
C'est, on ne peut pas, comme tu disais tout à l'heure, c'est très juste. On ne peut pas faire autrement que le corps qu'on a.
Mais vous n'incarnez pas toutes les deux le féminin. Il n'est pas pensé quand vous performez.
Il est là d'une façon.
Il est là. Il est juste là.
On ne peut pas faire autrement.
Voilà. Il est mais il est.
Parce que c'est juste d'accord. Une petite blonde aux yeux bleus avec des formes.
Oui. Mais voilà. Donc tu es.
Oui, je mets un sac et je mets quelque chose de dérisoire qui sont des bouteilles de plastique. Alors, j'utilise la longue exposition. Comme ça devient fantomatique, sauf cette image-là, la bouteille. Ici, le bras est transparent. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que cette coiffe au ralenti. Elle me dissocie de mon corps d'une certaine façon. Mm-hmm. C'est un peu... C'est l'accessoire provoque une relation. Alors, il y a cette coiffe qui symbolise pour moi la technologie. Moi qui tente d'être en relation avec l'animal sur le lieu. Et ici, il y a l'homme. C'est un squelette d'homme qui était là. Excusez-moi, ça déroule tout ça. Dans un placard, et ça explique l'espèce de l'être humain. Alors, j'ai orienté « nous regardons ». L'homme, comme si c'était une espèce éteinte, un peu.
Et Prométhée est venu naturellement par le biais du feu?
Oui, parce que je crois que Prométhée aujourd'hui, c'est la nouvelle électricité. C'est le nouveau feu. Mm-hmm. Ou si on avait une figure. Si on avait une figure mythologique, aujourd'hui nous sommes dépendants de l'électricité pour l'accès aux technologies et nous vivons certaines frictions adaptatives par rapport au corps. Et c'est ce que, en art visuel, il faut utiliser des objets, des stratégies. Alors, ça peut être des choses qu'on ressent, mais comment le mettre dans l'espace? Alors, finalement, quand je porte des lumières, je me rends visible. Et je rends visible ce qui est autour de moi. Alors, c'est comme une stratégie pour ne pas disparaître devant les écrans. Ici, ce sont des écrans. C'est l'anneau du stade de basketball à New York que j'ai... Par la prise de vue que je prends en verticale. Arrête cela comment?
C'est une forme de mimétisme avec les insectes qui vont mimer aussi.
Oui. On est comme des lucioles ou des insectes qui sont attirés par les lumières des écrans. Il y a cette relation-là aux insectes, mais je pense que le féminin, c'est d'essayer dans ce cadre-là en mettant. Karine a la nudité. C'est une façon d'aborder. Et ma façon, c'est de tenter. Je suis comme un corps augmenté par la coiffe et sans dire je suis androgyne, mais de dire je suis
Et pourquoi pas, je pourrais être l'universel, moi aussi. Parce que c'est ça la difficulté.
C'est tout à fait.
Parce que tout de suite, si t'es une femme, on te met dans cette catégorie. Alors que si c'est un artiste masculin, ben là, tu t'adresses à tout le monde. Alors moi, j'essaie de m'adresser à tout le monde. Voilà. Ah, c'est pour ça que je ne me suis pas mis nue. Jusqu'à un certain point.
Où on te voit à quatre pattes, on subodore que tu es nue, mais on n'en est pas sûr non plus non, avec la coiffe.
Je porte ce que mais l'exposition est longue, mais c'est plutôt dans ce cas-là de me mettre dans la même position que les animaux. Mais c'est très difficile aussi parce qu'il y a toute la photographie de mode qui est qui est très libre aujourd'hui. Et de faire une image qui ne reprend pas une pose déjà faite, c'est très difficile. Il y a beaucoup de lignes, de fines lignes. Et puis, c'est pour ça que lorsque j'associe des corps à la nature dans les collages, ben là, je m'en donne un cœur joie avec le corps musclé remodelé d'aujourd'hui, qui est plus le corps masculin qui est devenu objectifié, parce que c'est pas mon corps d'une certaine façon. Alors, ça me donne la liberté de travailler, mais ça peut être des corps de femmes hyper musclés aussi, mais c'est comme en réaction au trop lisse de la représentation du corps féminin dans le magazine de mode, si vous voulez. Il y a rien. Il n'y a plus rien. Alors, je suis allée à l'autre extrême, qui est la représentation du corps masculin, qui n'est pas lisse du tout, mais qui est lisse d'une autre façon, qui est uniformisée. Mais c'est qui sont des cultures de chair. Moi, je les vois comme ça.
On en revient à nos hybrides, hein. Là, ça fait retour. Mais le féminin, bon, vous avez été méchante un petit peu toute avec moi. Je pensais que je me suis dit, elles vont avoir des positions très féministes, peut-être.
Ah, mais c'est pas la question que vous avez posée.
Non, je sais. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Je pensais que, peut-être, Karine, tu utilisais plus le corps en tant qu'affirmation de ton identité. Mais je suis très contente que tu me déstabilises par tes réponses, Karine aussi. Je vais peut-être me tourner vers celle qui pourrait me sauver.
Allô?
Chère Julie, veux-tu bien me sauver, s'il te plaît?
C'est ça. Moi, je suis vraiment entre l'homme et la femme dans mon personnage. Mais je vous écoutais tous parler, puis... Puis je me disais, il y a tellement de gens qui m'ont dit qu'ils ne s'identifiaient pas au personnage de Barbe, puis des femmes. Puis tu sais, c'est vraiment beaucoup de questions féministes là-dedans. Les normes féministes, elle n'arrête pas de parler de ce que sa mère lui dit de faire, de ne pas faire, etc. Puis elle, ça la dérange beaucoup. Puis il y a des gens qui... C'est parce qu'elle dit... Moi, j'ai pas une barbe. Tu sais, comme si une femme qui avait... On ne peut pas s'identifier à une femme à barbe parce que nous, on n'a pas de barbe. Pourtant, quand on lit des livres, je veux dire, on peut lire un roman sur une femme libraire, puis on n'est pas libraire.
Sur un homme.
Mais c'est comme si la femme qui lisait le roman ne pouvait pas s'identifier parce qu'elle ne porte pas de barbe.
Je pense que c'est la question du stéréotype qui est vraiment... dans un monde, si tu permets, juste cette parenthèse, une période très intéressante que nous vivons, qui vit le retour de la barbe. On n'a qu'à regarder nos beaux spécimens... Dans la salle, et la barbe signifiant, puisqu'il y a des codes extrêmement précis, des appartenances, je trouve ça fascinant, alors qu'il y a quelque temps c'était la moustache qui identifiait, donc je trouve intéressant que la lectrice bute finalement l'identification sur c'est le but la limite du stéréotype qu'elle prend pas. Alors qu'on aurait pu faire n'importe quoi d'autre et elle aurait peut-être mieux pris, mais la barbe, ça passe.
Puis il y a aussi un jeu dans la barbe, parce qu'en fait, je me demandais, est-ce que dans mon roman, qu'est-ce qui est plus proche de l'animal? Puis je me suis rendu compte que dans tout le roman, en fait, c'est plus le masculin qui est animal, parce que c'est la barbe qui fait qu'elle décide d'aller dans le bois, sinon elle est domestiquée. La femme, elle est domestiquée, elle reste à la maison, elle n'a pas le droit de sortir, elle est enfermée dans une maison avec des rideaux, elle n'a pas le droit de sortir. Puis l'homme va dans le bois, les bûcherons vont dans le bois, tous les hommes sont partis soit pêcher ou vivre dans le bois pendant tout l'hiver. Puis quand ils reviennent, ils doivent se raser la barbe, donc ils se redomestiquent. Donc, les hommes dans Barbe, c'est des hommes qui ont uniquement des besoins primaires. Donc, ils mangent, ils dorment, ils boivent, ils chient, puis ils veulent baiser quand ils vont revenir au village. Tandis que la mère, elle, elle lit la Bible, elle a des grandes réflexions, puis tout ça. Donc, il y a vraiment une distinction dans Barbe, sur, c'est ça, le masculin et animal, tandis que le féminin est très domestiqué.
Est-ce qu'on finirait par un petit extrait, si vous... juste un petit extrait gourmand.
Un petit truc, parce que c'est intéressant, la notion par rapport à la barbe, par rapport au poil, par rapport à l'animalité. Ça fait un pont par rapport à ce que tu vous disais, par rapport à la
Marilyn.
Le côté morcelé, en fait, de l'animal. Comme moi, la raison pour laquelle j'ai fait la vie en rose, la série des 50 crânes de vache rose aussi, c'est vraiment, comme on voit dans les supermarchés, toute la notion d'identité de l'animal, les pattes, plumes, la tête, la queue. Sont pas là. Parce que si tu vois juste une queue de vache, tu sais, ah, c'est une vache. Je veux dire, la tête, on oublie ça, c'est sûr, c'est évident. Le cheval ou le cochon, on va le voir tout de suite. Tandis que quand tu es devant les étalages, c'est tout du pareil au même. Puis, je veux dire, le poil a une connotation même par rapport aux femmes, justement, l'animalité. Puis là, on pourrait faire un pont avec les. Ce que je disais par rapport à quand il y a une partie animale qui est associée à la phocomélie, c'est-à-dire les sirènes. Il y a un parallèle qui est très fort entre les êtres humains qui sont nés avec les jambes qui sont soudées. Donc, ça peut ressembler vraiment à des sirènes. Il y a toutes les maladies, en fait, ou les déformations génétiques vont être associées avec des noms d'animaux comme si c'était péjoratif. Puis alors que, bizarrement, l'être humain va chercher à acquérir le pouvoir des requins parce qu'ils sont aérodynamiques, les araignées avec les fils d'araignée, les toiles d'araignée. On a un rapport assez particulier avec l'animal, de le rejeter, mais en même temps de l'envier. Pour avoir son pouvoir ou ses qualités qui sont exceptionnelles.
Je pense que toute l'ambiguïté, tu vas certainement nous trouver un extrait.
C'est ça, je ne sais plus trop qu'est-ce que je voulais. Parce que là, j'avais un extrait très drôle, mais là, vu qu'on parle de. En fait, c'est pas vraiment. C'est plus ce côté un peu enfantin, peut-être.
Mon J'aime Dieu. Bien avec au début avec le lièvre.
Ah oui, d'accord, j'allais ici. J'avais tous mes extraits des animaux. OK, donc. Elle est dans la cabane. La cabane est encore. C'est au début, elle est encore dans sa cabane. Puis là, elle parle de son rapport avec les animaux. Dans les environs, aucune fumée ne s'élève des branches. Nulle part, il n'y a d'odeur humaine, sale et infecte odeur. Quelques bêtes seulement connaissent le chemin pour se rendre ici. Elles s'appellent loup, cougar, polatouche, origno, cerf. Quand nous nous apercevons, nous regardons comme on regarde un étranger, dans un mélange de respect et de crainte. Parfois, la ruse l'emporte et nous restons dissimulés. Nous nous connaissons par traces, nous. Je prends le corps de lièvre et le presse contre ma poitrine. Je prends ma poitrine et la presse contre son corps. Il a passé la nuit près du feu et désormais, quoiqu'ailleurs, il donne l'impression d'être ici. Je le berce et l'entends ronronner. Il creuse dans mon cou un délicat sillon. Lièvre me regarde par toutes les petites billes insérées dans, par de toutes petites billes insérées dans l'orbite. Et en dépit de sa mort, nous nous aimons aujourd'hui d'un amour irrépressible. Parfois, je l'amène dans la cuve. L'eau, la chaleur et nos corps l'un contre l'autre nous font oublier que nous ne sommes pas de la même espèce. À quoi ça sert, d'ailleurs, une espèce?
Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous toutes.
Merci.